Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Coucou. Le soir du 8 novembre 2010, Han Pan, un père de famille sans histoire, s'enfuit de chez lui. Un trou dans la tête en suppliant que quelqu'un lui vienne en aide. Dans les bras de son voisin, il explique que la famille a été attaquée, que sa femme a reçu plusieurs balles au sous-sol et que sa fille de 24 ans est menottée à la rampe d'escalier. Vu comme ça, c'est assez classique, hein. C'est ce que les Américains appellent une « house invasion ». Ou attaque de maison en français, hein, si vous préférez. Sauf que, bien évidemment, toute l'affaire qui paraît assez simplette à première vue cache en réalité un très lourd secret. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tous, c'est Max Guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, dans laquelle on va parler de l'affaire Pan, une histoire canadienne dans laquelle une pauvre famille est attaquée en pleine soirée, alors que la mère est devant la télé, les pieds à l'air en pyjama dans une bassine d'eau. Bon, je fais pas mes recherches à moitié, moi j'aime bien rentrer dans les moindres détails, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lu le livre qui traite de cette affaire et qui s'appelle « A Daughter Deadly Deception ». Bon, bien évidemment c'est en anglais, mais bon, c'est pas super compliqué à comprendre. Mais si vous voulez lire un livre d'histoire vraie en français, je peux vous en conseiller un. C'est le mien. Voilà. Je sais que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà l'histoire, justement, de cette affaire, la famille Pan, mais j'avais vraiment envie de la traiter moi-même, à ma façon, avec mes illustrations. Donc c'est pas la peine dans les commentaires de me dire « Oh là là, j'ai déjà vu cette affaire ici et là ». Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une attaque mortelle. Notre histoire prend place aujourd'hui chez nos amis canadiens que l'on reconnaît avec leur accent chantant, leur chemise à carreaux rouges et leur petite bouteille de sirop d'érable cachée au fond d'une poche. J'y suis jamais allé, c'est Google qui me l'a dit, hein, m'attaquez pas. On est plus précisément à Markham, près de Toronto dans l'Ontario. Markham, c'est une municipalité assez bourgeoise, là où les grandes familles du coin s'installent dans de belles maisons en briques avec étage, double garage et toute la tranquillité qu'apporte un coin comme Markham. Peu d'incivilité, peu d'agression, une insécurité quasiment nulle. Le rêve. C'est donc tout naturellement que Bic et Han Pan se sont installés ici après avoir fui leur pays d'origine, le Vietnam, à la suite de la chute de Saigon, capitale du Vietnam du Sud. Je peux vous faire un cours d'histoire puisque je suis pas spécialisé là-dedans, mais à l'époque le pays est séparé en deux. Au nord, les communistes, au sud, une république. C'est la guerre, pam pam boum boum, les communistes gagnent et s'emparent du sud. La famille Pan s'enfuit et obtient l'asile politique au Canada. Le couple Pan va dans un premier temps s'installer allé à Scarborough pour travailler dans une usine automobile et gagner quelques sous avant de pouvoir avoir des enfants et s'acheter une maison. Et oui, les Pan sont des gens responsables, hein, qui vont pas faire 2-3 gamins alors qu'ils ont aucune situation. Et vu la baraque qu'ils vont se payer juste après, ils ont plutôt bien réussi leur coup. Jennifer naît en 1986. Son frère Félix arrive en 1989. La famille emménage alors à Markham, dans une zone décrite comme ayant une large population asiatique. Ils font un crédit pour acheter la maison et se paient une belle voiture Mercedes. La vie dont ils ont toujours rêvé est enfin là entre leurs mains. Les années passent, Anne et Bic sont strictes avec Jennifer et Félix. Les devoirs du soir sont un calvaire. Les enfants sont interdits de sortie pour ne pas entraver leur réussite scolaire. Le couple Pan ne jure que par le travail acharné. S'ils ont réussi dans la vie, leurs enfants feront encore mieux. Aucune excuse ne sera acceptée. On entrera pendant l'enquête sur les détails de leur vie de famille. En attendant, place à l'attaque. Ce lundi 8 novembre 2010, Jennifer, qui a maintenant 24 ans, est chez elle. L'étudiante doit réviser pour un examen sur la passionnante histoire du piano. Elle ne sort pas de la journée. Son frère Félix a quitté le domicile familial depuis quelques années puisqu'il vit à 30 minutes de la maison. Il a un petit logement étudiant pour être au plus près de son université. La mère, Bic, 53 ans, fait sa vie. Elle a quelques courses à faire et doit rendre visite à son père âgé avant de rentrer sur la fin d'après-midi. Quant à Anne, 57 ans, il quitte l'usine dans laquelle il travaille toujours, vers 16h à peu près, et chez lui aux environs de 16h30. Bref, les Pan au moment des faits ont une vie de famille classique. On sait que ce jour-là, Anne ne mange pas avec sa femme et sa fille, puisqu'il doit faire une course dans un magasin de bricolage. Et chez les Pan, on mange tôt. 18h, pas plus. Mais je crois que c'est en général, hein, au Canada et en Amérique, que les gens mangent très tôt le soir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que moi, perso, 18h, c'est l'heure du goûter. Parce qu'il doit se lever tôt tous les matins pour le travail, Anne s'installe devant l'ordinateur familial pour se tenir au courant des dernières nouvelles venues du Vietnam avant d'aller se coucher et s'endormir rapidement vers 20h. Totalement inconscient des horreurs qui allaient se dérouler dans sa propre maison. Quelques heures plus tard. À 22h, Jennifer est dans sa chambre devant la télé. Après une dure journée de révision, elle a bien besoin de penser à autre chose que l'histoire du piano. Mais, alors qu'elle est en train de s'endormir avec le son du film du soir, Jennifer entend ce qu'elle décrira comme un bruit sourd venant d'en bas, comme un coup de pied dans une porte. D'un coup, l'étudiante entend sa mère appeler son père. Tout de suite, quelque chose la tique. Sa mère parle anglais, alors qu'à la maison, toute la famille se parle en vietnamien, la langue maternelle. Jennifer décide d'aller voir ce qu'il se passe pour vous dire à quel point le fait d'entendre parler sa mère en anglais la perturbe. Elle entr'ouvre sa porte de chambre et se rend compte qu'un inconnu est là, sur le palier. Le type est cagoulé et ne l'a pas vu. Il semble se diriger vers la chambre parentale. Jennifer ne réagit pas. Elle a 24 ans, elle sent le danger qui guette et décide de refermer sa porte et de la verrouiller. Bon courage, papa. Pendant ce temps-là, Anne est sortie de son sommeil. Lui qui a travaillé toute la journée à l'usine, pas comme ces feignants de youtubeurs, est épuisé et se demande s'il n'est pas en plein cauchemar. Un type est là devant lui, un col roulé noir, casquette de baseball sur le crâne, un flingue en main. Le type lui hurle dessus. « Où est le putain d'argent ?» Sans avoir le temps de répondre et toujours à moitié dans les vapes, même si l'adrénaline commence à monter, Anne est forcée de sortir de son lit. Il descend les escaliers, toujours tenu en joue par le ravisseur. À ce moment-là, le père qui comprend la situation a peur pour lui, bien évidemment, mais surtout pour sa femme et sa fille. Arrivée dans le salon, Anne découvre que Bic est là, sur le canapé. Prise en otage elle aussi, les pieds toujours dans son seau d'eau. Elle n'a rien vu venir quand l'attaque a débuté. Une fois le couple installé dans le canapé, Bic va parler doucement en vietnamien à son mari pour lui demander comment les types ont fait pour entrer dans la maison alors que la porte d'entrée est censée être fermée à clé. Anne fait un geste de la tête, il n'en sait rien et demande à sa femme de rester calme. Les deux inconnus commencent à faire de grands gestes face au couple. Vous allez nous dire où est le fric? On veut toutes vos économies. Vous avez une belle baraque, jolie bagnole dans le garage. Il y a forcément du cash quelque part. Où est le coffre? Nulle part, on n'a rien ici. On garde rien sur nous, on a déjà subi un cambriolage il y a quelques années. Depuis, on n'a rien chez nous. Je dois avoir $60 dans mon portefeuille si vous voulez. Un premier coup de crosse part en direction de Anne. Y a quelqu'un d'autre dans la maison? De peur que Jennifer tente quelque chose pour sauver ses parents ou fasse peur aux ravisseurs qui pourraient faire feu, Bic prend la parole.
Oui, notre fille dort à l'étage. Elle a sûrement rien entendu, laissez-la tranquille.
Le troisième complice, qui était toujours en train de fouiller l'étage comme un rat, reçoit l'information. Il tente d'ouvrir la porte de Jennifer, qui est verrouillée. L'étudiante n'a plus le choix, sa mère a dit qu'elle était là. Soit elle fait la morte et attend que sa porte soit défoncée, soit elle l'ouvre d'elle-même. Jennifer déverrouille sa porte de chambre. Sur le palier, un homme cagoulé l'attend. Menotté par précaution, l'étudiante est alors descendue au salon pour être menacée devant ses parents. Le message est clair. Si Bic ou Anne tentent quoi que ce soit, c'est leur fille qui prendra une balle en première. La mère de Jennifer réagit lorsque sa fille est poussée hors de la pièce.
S'il vous plaît, Vous pouvez nous faire du mal, mais s'il vous plaît, ne faites pas de mal à ma fille.
De retour dans sa chambre, toujours menottée, Jennifer va parler. Elle explique avoir $2000 en cash qu'elle a économisé avec les petits boulots qu'elle fait pour se faire plaisir. Elle avoue aussi qu'il doit rester $100 appartenant à sa mère dans la maison. Mais c'est tout. Prenez tout et partez. Jennifer restera menottée dans sa chambre avec l'un des ravisseurs jusqu'à la fin de l'attaque, qui se passe maintenant au sous-sol aménagé de la maison. Anne et Big sont descendus pour leur mettre un dernier coup de pression. Les ravisseurs en sont persuadés, il y a forcément du fric dans cette maison. Ils sont pas venus ici armes en main pour repartir avec à peine 2000 balles. Mais les parents le jurent, la famille n'a rien d'autre ici. L'un des hommes recharge son arme. Dernière chance. Le couple continue de jurer. Une couverture leur est jetée dessus. Big se met à hurler de terreur. Elle supplie les ravisseurs de ne rien faire. Elle a un fils, une fille, une famille. Anne essaie de se débattre pour faire tomber la couverture. Le sous-sol plonge dans le silence. Big et Anne se taisent. Eux qui étaient venus trouver refuge au Canada, loin de la guerre et des armes, viennent d'être exécutés froidement dans le sous-sol de leur maison. De son côté, Jennifer a bien évidemment entendu les coups de feu. L'homme qui la retenait dans sa chambre réagit tout de suite et décide de l'attacher à la rampe d'escalier pour que lui et ses complices aient le temps de s'enfuir sans qu'elle n'appelle les secours. Mais ce que l'homme n'a pas remarqué, c'est que Jennifer a son téléphone portable dans son legging. L'étudiante, voyant que les trois types se sont enfuis comme des lâches, commence à se tordre dans tous les sens pour attraper le portable. C'est son seul moyen d'appeler au secours. On est en pleine nuit, les coups de feu ont eu lieu au sous-sol, personne ne viendra avant demain matin ou plus tôt. Après plusieurs longues minutes, Jennifer attrape enfin son téléphone et compose le 911.
S'il vous plaît, envoyez de l'aide, on vient de se faire cambrioler, je sais pas où mes parents sont. Des gens sont entrés dans la maison et ils ont pris tout l'argent. J'ai entendu mes parents crier dans les escaliers, s'il vous plaît, venez, on a besoin d'aide. Papa ? J'appelle le 911, papa, j'appelle le 911. Je vais bien, papa, je vais bien, j'appelle les secours. Quelqu'un s'est barré, j'ai entendu des coups de feu comme des pans et je sais pas ce qui s'est passé, je suis coincé à l'étage.
Vous l'avez entendu pendant l'appel, le père de Jennifer, Anne, a survécu à l'attaque. Enfin, si l'ambulance arrive dans les prochaines minutes, hein, parce que là, il en a plus pour longtemps, à mon avis. Mais il a réussi à sortir de la maison malgré la balle qui lui a traversé la tête, fracturant l'os près de son œil droit. Il a aussi eu un impact dans l'épaule. Les appels à l'aide étranglée que l'on entend pendant l'appel sont donc ceux de Anne, qui tient dans ses bras le corps inerte de sa femme, sa partenaire depuis 30 ans, qui a été touchée 3 fois par balle sur le haut du corps. Le père de 57 ans vient de sortir de sa maison. Avec ses dernières forces, il supplie ses voisins de lui venir en aide. C'est d'ailleurs l'un d'eux, Peter Chung, qui partait au travail à ce moment-là, qui va voir Anne dans un sale état et le récupère à moitié sans vie. Le père tente de dire quelques mots, il parle d'attaque, de coups de feu, sa fille prise en otage, sa femme au sous-sol. Peter hurle à son tour et demande à son épouse d'appeler les secours. En quelques minutes, toutes les patrouilles qui étaient dans les alentours bouclent le quartier. Les premiers policiers qui arrivent sur place tentent d'extraire quelques informations à Anne de peur qu'il ne décède des suites de ses blessures. Après une rapide discussion, les agents décident d'intervenir. Arme en main, ils entrent dans la maison. Tout de suite, Jennifer les appelle en hurlant depuis sa rambarde d'escalier. Elle est à moitié hystérique, terrorisée par la situation, après avoir vu son père en sang sortir de la maison. Éclairée par une lampe torche, Jennifer est bien là. Mais malgré qu'elle ait survécu à l'attaque, la maison familiale devient scène de crime, puisqu'au sous-sol, sa mère Big n'a pas survécu à ses blessures par balle. Pourtant, les agents qui découvrent la scène de crime ne comprennent pas vraiment ce que Anne et Jennifer leur ont dit. Parce que, bon, ok, ils ont été victimes d'un cambriolage qui a apparemment mal tourné. Bon, même si ça a mal tourné à partir du moment où ils se sont fait tirer dessus. Hein. Mais ce qui dérange les enquêteurs, c'est que la maison n'est pas retournée, les meubles n'ont pas été fouillés, les placards sont pas ouverts, il y a que la chambre parentale qui, bon, est un peu retournée, voilà, les ravisseurs ont certainement cherché des bijoux, mais rien de plus, ils ont pas retourné la salle de bain, le salon, les meubles, non, la maison est propre, il y a que la chambre qui a été fouillée. Mais bon, pendant qu'on se pose toutes ces questions, Jennifer, elle est encore accrochée à la rambarde d'escalier, donc on va peut-être aller la libérer un moment. C'est l'agent Daroche qui coupe les liens de Jennifer et l'escorte en dehors de la maison. Voyant son père être amené dans une ambulance, elle aura le réflexe de lui demander
« Papa, ça va ?»
Bof, hein, perso, je suis pas médecin, mais quand on se prend une balle sur le coin du crâne, il y a moyen que ça aille pas vraiment bien. Père et fille sont emmenés ce soir-là au Markham Stouffville Hospital. Pendant que les médecins vont tout faire pour sauver Anne, c'est Jennifer qui va se mettre à parler à un psychologue spécialisé dans les interventions de crise. Elle raconte tout avec ses mots que ce soir, elle a invité l'un de ses amis, Adrien. Il est arrivé à 18h pour regarder une série télé dans le sous-sol avec elle jusque 21h. Il s'est rien passé de spécial et Adrien est reparti à 21h. Ensuite, Jennifer raconte qu'elle est montée dans sa chambre. La suite, vous la connaissez. Mais alors, dans l'histoire récente de la famille Pan, qui aurait pu leur en vouloir au point de débarquer en pleine soirée, arme en main, pour les exécuter froidement? Puisque bah, c'est la première hypothèse qui est retenue, le cambriolage, personne n'y croit, la maison n'est même pas retournée, il n'y a que la chambre, je le répète, qui a été fouillée. Donc, le cambriolage, c'est juste une façade pour cacher une exécution froidement préparée. Le passé de la famille. Tout ce qui suit est le résultat de l'enquête de voisinage et de l'enquête familiale, puisque Félix, le frère de Jennifer, va lui aussi témoigner sur qui étaient ses parents et sur ce qu'il se passait au sein du domicile familial. Les proches de Anne et Bic racontent que le couple voulait tout faire et tout donner à leurs enfants, à une exception près, que Jennifer et Félix travaillent aussi dur qu'eux pour réussir dans la vie, comme ils l'ont fait après avoir fui le Vietnam. C'est ce qu'on appelle des parents tigres, un terme popularisé par Amy Chua, une américaine ayant des parents chinois, qui l'ont éduquée à la dure et qui a écrit un livre justement sur cette éducation de parents tigres qu'elle fait elle-même subir à ses enfants, puisque d'après Amy, l'éducation occidentale est vouée à l'échec, car trop positive, trop bienveillante envers les enfants. Fini les écrans, les jeux vidéo, les rendez-vous entre amis au parc du coin. Le parent tigre inscrit son gamin à des tas d'activités extrascolaires et lui gère son emploi du temps à la minute près. Et attention au pauvre gamin s'il a le malheur de rentrer avec une mauvaise note ou de ne pas être au top de sa forme pendant un cours de piano. Il en entendra parler pendant des jours. Et c'est exactement ce que vont vivre Jennifer et Félix. Dans le cas de Jennifer, la pression va commencer dès l'âge de 4 ans. Ses parents vont l'inscrire à des leçons de piano, des cours de patinage artistique. Ses journées se résument uniquement à l'école, les entraînements et les devoirs jusque tard le soir. Jennifer n'allait quasiment jamais coucher avant minuit les jours de semaine. Mais bon, pour la motiver, ses parents lui disaient qu'à force de s'entraîner, elle allait finir championne olympique de patinage artistique. Alors pas du tout, parce qu'en fait elle va se blesser au genou à un moment pendant un entraînement, et c'en est terminé du patinage. Pendant les années de lycée, Anne et Big vont surveiller de très près les notes de leur fille et ses activités extrascolaires. Interdiction stricte de participer à des fêtes ou des rassemblements entre ados. Interdiction d'avoir un petit ami. Tous les soirs, Anne prend bien soin de verrouiller la porte d'entrée pour être sûre que sa fille ne parte pas en douce. Il est impensable que Jennifer ne réussisse pas dans la vie. Tout ce qui pourrait entraver sa réussite lui est interdit. Pendant les devoirs du soir, Jennifer est harcelée par sa mère qui lui hurle dessus pour lui expliquer les choses et la motiver à apprendre plus vite ses cours. La torture psychologique dure des heures. Épuisée par ses journées de cours, ses cours de piano, ses activités extrascolaires, Jennifer ne tient plus. L'adolescente n'a jamais été en soirée, n'a jamais été chez des amis, ne serait-ce que pour passer une après-midi, n'est jamais partie en vacances avec son groupe de potes. Toute sa vie n'est qu'études et activités sérieuses. Elle est prisonnière de sa propre maison à ce moment-là. Et sans surprise, l'étudiante va développer divers problèmes, anxiété, automutilation. Jennifer n'en peut plus et pour être tranquille, elle se met à falsifier ses bulletins scolaires. Puisque ses notes chutent, elle est dégoûtée de l'école, du système scolaire, de ses parents. Jennifer veut juste vivre la vie d'une étudiante d'une vingtaine d'années, pas passer ses journées à apprendre par cœur ses cours comme un robot pour ensuite trouver un parfait petit boulot et obéir tout le reste de sa vie à un patron jusqu'à la sainte retraite pour finalement être trop vieille pour voyager et profiter de la vie. Mais ce qui marque le point de rupture entre l'étudiante et ses parents, c'est qu'elle va échouer au but final de toute son éducation, Jennifer va échouer à son examen d'entrée à l'université et elle va recevoir l'annonce chez elle par lettre. Mais pour elle, impossible de dire la vérité. Enfin, faut quand même bien se rendre compte de la situation. Hein. Toute sa vie, dès son plus jeune âge, Jennifer a été enfermée pour justement réussir à entrer à l'université et obtenir un beau diplôme pour rendre fiers ses parents. Et finalement, elle échoue. Et la petite Jennifer, elle va rien dire et annoncer à ses parents qu'elle est prise à l'université. C'est le début de belles années de galère. Trinquant à la réussite de leur fille, Anne et Bic n'auraient pas pu être plus fiers. Tu vois que le travail paie, lui lance Bic, ça valait bien le coup de sacrifier toutes ses soirées. Jennifer explique à ses parents qu'elle fera sa rentrée à l'automne 2004 et qu'elle a même réussi à décrocher une bourse de 3 000 $, tellement ses résultats étaient bons. Alors franchement, elle aurait pu s'arrêter aux mensonges de l'université sans rajouter par-dessus la bourse scolaire. Mais bon, au point où on en est, Jennifer va pas s'arrêter là. On est 6 ans avant l'attaque.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
À partir de septembre 2004, Jennifer part le matin de chez elle et s'installe dans des cafés ou chez son petit ami secret, Daniel Wong, qu'elle a rencontré au lycée. Toute la journée, elle lit des livres de médecine, achète des manuels d'occasion pour faire des fiches, qu'elle étudie ensuite le soir devant ses parents. Et les années passent. Par chance, Jennifer ne se fait pas prendre et de toute façon, elle sait comment faire plaisir à ses parents. Réviser devant eux, faire de faux bulletins de notes. Sauf qu'à un moment, va bien falloir qu'elle ait un diplôme, notre étudiante. En 2008, 4 ans après sa pseudo-entrée à l'université, c'est l'heure de la cérémonie de remise de diplôme. Sauf que, Jennifer va expliquer à ses parents que l'université ne donne qu'un seul ticket pour assister à la cérémonie. Et il a pas voulu choisir entre ses deux merveilleux parents, donc elle a donné son ticket à une autre étudiante. Voilà, donc ses parents peuvent pas assister à la cérémonie. On est un peu dans le même délire que Jean-Claude Roman, vous savez, le faux médecin français qui pendant 13 ans a fait croire à sa femme justement qu'il était médecin, alors qu'il passait ses journées sur des aires d'autoroute à lire des faux magazines de médecine. Sauf qu'à un moment, sa femme s'en est rendu compte forcément et il a sorti la carabine pour massacrer toute la famille. Si son histoire vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous en ferai une belle HVF illustrée. Enfin belle, les illustrations seront sympas. Pas l'histoire, parce que c'est quand même l'histoire d'un type qui massacre ses gamins et sa femme. Après sa fausse cérémonie, Jennifer va dire à ses parents que ça y est, elle a trouvé un job à l'hôpital pour enfants malades de Toronto. Problème, Anne et Bic remarquent assez vite qu'elle n'a aucune carte à son nom pour entrer dans l'hôpital, ni d'habits en rapport avec son travail. Alors les parents pannes, ils sont sympas, ils adorent leur fille et ils croient à peu près tout ce que leur dit Jennifer, mais faut pas non plus les prendre pour des demeurés, même si le mensonge va durer 4 ans. C'est long, hein, quand même 4 ans. Comme quoi, plus les parents sont stricts, plus les enfants savent mentir. Anne va décider de suivre sa fille pour voir si elle se rend vraiment au travail lorsqu'elle part le matin. Et après quelques minutes de route, Jennifer s'arrête, se gare et pousse la porte d'un restaurant. Quelques minutes plus tard, elle est là, en habit de travail, en train de faire le service. Il n'y a pas de sous-métier, on est d'accord pour la plupart d'entre nous. Sauf que Anne, il est pas vraiment de cet avis-là. Il a éduqué sa fille de la plus stricte des manières pour un seul objectif, qu'elle aille à l'université et qu'elle obtienne un beau diplôme à présenter à toute la famille. Serveuse, c'est la honte chez les pannes. Que vont dire les oncles, les tantes, les grands-parents, les cousins quand ils vont apprendre que la fille d'Anne Pan n'est qu'une simple serveuse qui n'a même pas été à l'université. Bien évidemment, à son retour, une dispute éclate. Anne et Bic confrontent Jennifer à tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont découvert. Et elle avoue tout en larmes. Oui, elle a menti. Non, elle n'a jamais été à l'université. Elle allait chez son petit copain ou au travail tout ce temps. Ses parents l'ont dégoûtée des cours et de l'école. Très bien. Le père de Jennifer décide alors de purement et simplement la renier, la virer de la maison. Il ne veut plus jamais voir son échec de fille. Voilà, la relation était pas au top et c'est pour ça que pendant l'attaque, Anne se barre en laissant sa fille accrochée à la rambarde d'escalier. Si sur un malentendu, il peut se débarrasser d'elle, Non, ça c'est trash. Bon alors heureusement, Big va réussir à convaincre son mari de laisser Jennifer rester. Ok, à une condition, elle se voit confisquer son téléphone portable, son ordinateur et a interdiction de voir son petit ami Daniel pendant 7 ans. C'est radical chez les Pan. Malheureusement, Daniel, voyant que sa relation avec Jennifer ne mène nulle part, ou plutôt ne mènera nulle part, tant que ses parents s'opposeront justement à ce qu'ils se voient, préfère mettre fin à la relation. Le regard noir au fond de sa chambre, Jennifer le sait. Un jour ou l'autre, elle devra bien se débarrasser de ses chaînes. Jennifer raconte. Mais avant d'aller trop vite, voyons ce que Jennifer dit aux enquêteurs qui l'interrogent après l'attaque. La description des ravisseurs, ce qu'ils lui ont dit. Après avoir pris des cachetons contre l'anxiété, Jennifer est placée dans une salle d'interrogatoire pour obtenir sa déposition. L'agent Daroche et Jennifer arrivent au commissariat de police de Markham à 13h30 le 9 novembre. C'est Randy Shade qui se charge de prendre son témoignage. L'interrogatoire commence tranquillement. Shade explique à Jennifer qu'elle doit jurer de dire la vérité, que si elle ment, elle risque des poursuites pour parjure. Jennifer acquiesce. Quand Shade ajoute que si Jennifer ment, elle pourrait aussi aller en prison, l'étudiante va commencer à gigoter, se frotter les jambes, comme si elle se sentait nerveuse. Alors ok, c'est peut-être de la psychologie de comptoir, mais dire à une jeune de 24 ans qui vient de subir une attaque à main armée, dans laquelle ses parents et elle-même ont été pris en otage, et dans laquelle sa mère est décédée après s'être pris 3 balles dans le torse, alors même que son père est encore dans le coma, que si elle ment, ou si elle se trompe sur des petits détails, elle risque la prison, c'est peut-être pas le meilleur moyen de la mettre à l'aise. Après, moi, je suis pas spécialiste. Le souci, c'est que Jennifer va pleurer ce que j'appelle des larmes de crocodile. Quand l'agent Shade commence à lui parler du meurtre de sa mère, elle va se mettre à sangloter. L'agent lui passe un mouchoir. Jennifer l'utilise et il reste tout blanc. Jennifer pleure tout sec. Aucune larme ne sort réellement de ses yeux. Shade ne relève pas le détail devant Jennifer, mais le note dans un coin de sa feuille. Et c'est pour ça que je le sais, parce que dans la vidéo, on voit pas grand-chose. Selon Jennifer, l'un des intrus était un homme noir de corpulence moyenne avec des dreadlocks. Le second avait un long visage ovale et le dernier avait un accent des Caraïbes. Après que Jennifer ait terminé de donner sa version, Shade lui demande alors de montrer comment elle a réussi à attraper son téléphone alors qu'elle était accrochée à la rambarde. Jennifer se lève. Mets ça sur le côté dont tu te souviens. Parfait. Tourne-toi. Ne regarde pas. Regarde comme si tu y étais. Ici, c'est la rampe d'escalier. Mets tes mains dans le dos, comme tu t'en rappelles. Donc là, t'es bloqué. Tu peux bouger tes mains jusqu'au cou. Ils ont attaché mon bras à la rampe. Mes mains étaient attachées ensemble. Ok, les mains sont attachées et cette partie du bras est attachée à la rampe. Comment t'attrapes ton téléphone? Comment tu composes le numéro?
911.
Tu réussis à parler?
Oui,
je parle fort au téléphone. Et tu entends comment? Mets le volume au max. Donc, c'est comme ça que tu as parlé en étant attaché. Bon, comme vous le voyez, ça paraît pas super convaincant. Hein. Elle semble hyper mal à l'aise, mais au final, elle réussit à attraper son téléphone, à composer le numéro sans rien voir et à téléphoner avec le volume max, d'après elle. Alors, je suis pas expert en analyse de comportement, mais après la démonstration, Jennifer se prend la tête et on dirait vraiment qu'elle est en train de se dire « Je suis dans la merde ». Pardon, mais moi je le vois comme ça. Bref, Shade lui demande ensuite de revenir sur son histoire une deuxième fois. Et c'est très important de faire répéter le scénario aux victimes, même si c'est douloureux, pour avoir un maximum de détails qui auraient pu être oubliés, mais aussi pour déceler le vrai du faux. Puisqu'un scénario inventé de toutes pièces va forcément changer au fil du temps, s'il n'a pas été appris par cœur. Et malheureusement pour Jennifer, le schmilblick varie pas mal. Quand Jennifer raconte sa version pour la première fois, elle reste dans sa chambre lorsque sa mère rentre. La seconde fois, elle dit à Shade qu'en fait, elle est descendue parler un peu avec sa mère avant de remonter dans sa chambre. Elle dit avoir donné 2 500 $ aux intrus et non plus 2 000 $. Quand elle est prise en otage à son tour, elle raconte avoir été assise devant ses parents. Dans sa seconde version, elle est agenouillée. Ça peut paraître insignifiant comme détail, elle va voir sa mère, elle va pas voir sa mère, 2 000 $, 2 500 $, assise, agenouillée, mais quand on dit la vérité, c'est beaucoup plus facile de tenir tous ces petits détails tout au long des récits. Et c'est pas seulement les incohérences dans le récit de Jennifer qui chiffonnent un peu Shade. L'agent trouve ça particulièrement bizarre que Anne soit sortie de la maison sachant que sa fille était toujours à l'intérieur en train d'hurler. Le père s'est même pas arrêté, n'a pas eu un mot pour Jennifer, comme s'il avait peur d'elle. Ou alors il voulait juste se débarrasser de sa fille. Ok, j'arrête. Pendant que Shade continue d'interroger Jennifer et tente de déceler le vrai du faux, les enquêteurs qui sont encore dans la maison de la famille Pan vont recevoir une visite d'un homme qui souhaite garder l'anonymat et dont le nom n'a pas été indiqué dans les archives. Cet homme explique que le petit ami de Jennifer, Daniel Wong, est un dealer de drogue et que Jennifer arrondit confortablement ses fins de mois en faisant des livraisons pour son compagnon. Daniel Wong est convoqué le 10 novembre, l'ex-petit ami de Jennifer parle du passé de la famille, de la relation qu'elle avait avec ses parents. C'est principalement grâce à lui que j'ai pu vous présenter tout le passé de la famille Pan précédemment. Mais celui qui va vraiment venir chambouler l'enquête et la faire monter un cran plus haut dans l'horreur, c'est Anne, le père, qui le 12 novembre se réveille. Et le patriarche de 57 ans n'a pas seulement survécu à ses blessures, mais il se souvient de tout ce qu'il a vu au moment des faits, et il implique sans aucune hésitation sa fille de 24 ans dans l'attaque. Sa fille, qui dans quelques jours va suivre le cercueil de sa mère, bougie en main auprès de son frère pour lui rendre un dernier hommage. Une trahison familiale. Anne raconte que pendant l'attaque, il a entendu Jennifer rigoler avec le ravisseur qui la retenait dans sa chambre. Il en est persuadé. Il a pas entendu une dispute ou des menaces, mais bien une conversation avec des éclats de rire. Anne n'a pas réussi à entendre ce qui faisait autant rire Jennifer, mais il est persuadé que les deux se connaissaient. Et par déduction, si les deux se connaissent, Jennifer connaît certainement les autres. Quand Jennifer a été montrée à ses parents soi-disant prise en otage, elle n'était pas du tout en panique et semblait même plutôt à l'aise vis-à-vis de la situation d'après Anne. 10 jours plus tard, Jennifer est de nouveau en salle d'interrogatoire. Cette fois non pas en tant que victime qui donne son témoignage, mais comme suspecte. L'enquêteur Bill Goetz va bombarder Jennifer de questions pendant 3h45. « On sait que t'as été impliquée, mais on sait aussi que t'es quelqu'un de bien qui a commis une erreur. T'as été en relation avec de mauvaises personnes. » Tu veux plus continuer à vivre cette vie. T'étais prisonnière de ta propre maison, tu vivais les attentes de quelqu'un d'autre. Peu importe à quel point il t'aime, il te privait, Jen. La Jen qui voulait simplement devenir professeur de piano. Pourquoi c'était pas assez bien pour eux ? Et ça va fonctionner. Goetz se place du côté de Jennifer et dit comprendre la situation. Jennifer reste silencieuse quelques minutes, puis ouvre la bouche.
Qu'est-ce qui m'est arrivé ?
Jennifer Pan se met enfin à parler. Elle explique que toute cette histoire n'est en réalité qu'une tentative de suicide ratée. La jeune femme clame qu'elle avait trop peur de mettre fin à ses jours elle-même. Elle a donc embauché un tueur à gages, ajoutant que ses parents n'étaient pas censés être blessés pendant l'attaque. Donc pour Jennifer, le seul moyen de mettre fin à ses jours, c'était d'engager 3 types armés pour qu'ils débarquent en pleine nuit chez elle, l'exécutent, cambriolent la maison et prennent ses parents en otage. Bon, je vais pas vous en parler pendant 10 minutes, puisque de toute façon, personne n'y croit, bien évidemment, c'est beaucoup trop gros. Et de toute façon, les enquêteurs viennent d'identifier les hommes qui ont attaqué la maison. Même si c'est un petit peu plus compliqué que ça. Malgré leur rupture, Daniel et Jennifer sont restés proches, tellement proches que Jennifer a commencé à parler de son projet. Tuer ses parents. Et Daniel, plutôt que de dire à son ex-petit ami qu'elle était complètement cinglée, va lui donner le contact d'un type capable de l'aider. Lenford Crawford, qui a 2 contacts prêts à le suivre dans ce genre de plan. Eric Sean et David Milvaganam. Tous les 3 demandent à Jennifer 10 000 $ pour l'attaque. Celle-ci accepte. C'est ridicule, hein, 10 000 $ à se partager en 3 pour exécuter 2 personnes. Au vu des peines de prison encourues, ça vaut vraiment pas le coup. Mais bon, que voulez-vous, quand on est débile, on l'est jusqu'au bout. Surtout que nos 3 neuneux sont déjà connus des services de police pour cambriolage et certains pour meurtre. Y a pas grand-chose à dire sur eux, c'est juste des pions qu'on achète, on les paie pour commettre un crime, et puis voilà. Enfin, la réalité est un peu plus compliquée, même pour les enquêteurs, puisque les quatre hommes vont plaider non coupables. Daniel, Lenford, Eric et David disent ne rien savoir de tout ça, malgré la masse de preuves contre eux récoltées pendant l'enquête. Témoignages, écoutes téléphoniques, SMS, allées et venues. Et ils ont bien raison de plaider non coupables, puisque Lenford et Daniel, par exemple, étaient au travail au moment de l'attaque. Eric et David n'ont pas d'alibi, mais les enquêteurs estiment que seul David était présent au moment des faits, avec deux autres personnes qui n'ont jamais été identifiées pendant l'enquête. Je sais que c'est un peu brouillon, j'ai dû relire pas mal de fois les articles et les différentes pages du procès, pour tenter de comprendre un peu le truc. Mais en fait, tout ce qu'il faut retenir, c'est que la justice ne sait pas si les quatre hommes étaient présents à ce moment-là dans la maison. Est-ce qu'ils ont bien participé à l'attaque ou non ? Mais pour la justice canadienne, ils ont tous de toute façon quelque chose à voir là-dedans. Qu'ils étaient dans la maison ou non, ils ont participé au plan. Le soir du 8 novembre, Jennifer déverrouille donc discrètement la porte d'entrée pour que les tueurs puissent mettre à exécution leur plan morbide. Dans sa chambre, elle rigole avec l'un des ravisseurs pendant que ses parents sont en train d'être descendus au sous-sol pour être exécutés. Au procès qui s'ouvre le 19 mars 2004, tous les accusés vont plaider non coupables de meurtre au premier degré, tentative de meurtre et conspiration. On ne sait pas qui a tiré sur Anne et Bic, mais toutes les preuves et témoignages recueillis pendant l'enquête prouvent que Jennifer, Daniel, Lenford, Eric et David sont responsables de ce qui s'est produit d'une manière ou d'une autre. Le 13 décembre 2014, Jennifer Pan, Daniel Wong, David Milvaganam et Lenford Crawford sont reconnus coupables des charges retenues contre eux et condamnés à une peine de prison à vie avec une sûreté de 24 ans. Avant une possible libération conditionnelle. Quant à Eric Carty, dont les avocats étaient malades pendant le procès, il est condamné à 18 ans de prison avec une possibilité d'appel après 9 ans. Il décédera 3 ans plus tard dans sa cellule. Aujourd'hui, Jennifer Pan est encore derrière les barreaux. Son père Anne et son frère Félix ont réussi à obtenir une ordonnance du tribunal interdisant à Jennifer de les recontacter. Père et fils ont coupé tout contact avec elle depuis sa condamnation et ne la considère plus du tout comme un membre de leur famille. Même si le procès a eu lieu, on ne sait toujours pas qui était exactement dans la maison au moment des faits, ni qui a fait feu sur Anne et Big Pan. Jennifer, Daniel, David et Lenford gardent à ce jour toujours leur petit secret. Mais la justice en est persuadée. Les coupables, ceux qui auraient pu arrêter la machine meurtrière, n'ont rien fait pour la stopper. Et même pire, ont fait en sorte de pousser Jennifer jusqu'au bout de son idée. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire de Jennifer Pan, qui a froidement fait exécuter ses parents le 8 novembre 2010. Même si le père a survécu, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez regardé Stage Life jusqu'au bout, mettez Jennifer en commentaire. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de l'éducation dite de parent tigre. C'est-à-dire, un parent qui prive de tout son gamin et qu'il focalise uniquement sur l'école et les activités extrascolaires intelligentes, les cours de piano, cours de patinage artistique, bref. Dites-moi tout ça. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se retrouve sur Twitter et Instagram, j'y suis très actif. C'était Max Kays, à vendredi prochain 18h. Et puis, bye!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.